Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue. En 2014, 5 pays sahéliens se sont mis ensemble pour créer le G5 Sahel. Il s'agit pour ces initiateurs de mettre en place un cadre institutionnel pour coordonner et suivre la coopération régionale dans leur politique de développement et de sécurité. Si ces États ont en commun leur appartenance au Sahel, ils font tous aussi face à un enjeu majeur qui est la sécurité. Où en sommes-nous avec cet idéal de coordination dans cet espace commun? Comment cette coordination évolue-t-elle jusque-là? En quoi les populations perçoivent-elles les retombées de ce regroupement? Nos invités sont Madame Narbaye Alimé. Bonsoir.
Bonsoir.
Madame Narbaye est journaliste à Radio Liberté de N'Djamena. Elle est surtout membre du réseau des journalistes du G5 Sahel. Le deuxième invité a pour nom Abdoul Salane Diagana. Bonsoir.
Bonsoir, M. Sidibé.
Il est chargé des communications et des relations publiques du G5 Sahel. Et Aloussène Touré, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Il est chef du bureau information de la presse au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Encore une fois, bienvenue dans ce forum de la presse spéciale consacré à la communication et les enjeux sécuritaires dans l'espace du G5 Sahel.
Le Grand Dialogue.
La communauté internationale a célébré hier la journée de la résolution des conflits. Cette commémoration intervient au Mali au moment où des affrontements sont récurrents au nord du pays. Alors nous allons suivre ensemble cet élément de la rédaction de Studio Tamani.
La journée de la résolution des conflits est célébrée cette année au Mali dans un contexte qui ne laisse pas place à moindre doute sur la pertinence d'une telle initiative de la part de la communauté internationale. La gestion des conflits demeure donc d'actualité dans le pays, puisque pas plus tard que ce mardi, des violents combats ont éclaté entre la force conjointe du G5 Sahel et des djihadistes au nord, précisément dans le Gourma. Composée essentiellement de soldats maliens, la force est appuyée par les combattants du groupe d'autodéfense Gatcha dans cette opération. Selon certaines sources, les combats ont eu lieu dans la forêt de Zungouei, qui n'est autre que le fief d'Abdul Hakim, le numéro 2 de l'organisation de l'État islamique. Aux forces du G5 Sahel, les djihadistes opposent une résistance farouche. Hier, à la mi-journée, les hélicoptères de la force sont intervenus, effectuant des frappes pour essayer d'affaiblir la résistance des djihadistes. Les premiers bilans ont fait état d'un soldat blessé du côté de la force conjointe et deux autres blessés dans les rangs du Gatcha selon une source sécuritaire. Cette journée intervient alors que le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est rendu hier à Abidjan où il a visité le site devant abriter la future Académie internationale de lutte contre le terrorisme, fruit de la coopération franco-ivoirienne. Pour certains observateurs, il est actuellement difficile d'évaluer l'impact de ces écoles de guerre. Néanmoins, ces collèges peuvent contribuer à mieux renforcer les capacité des forces africaines pour faire face aux extrémistes violents et éventuels terroristes, poursuivent-ils.
Abdoul Salam Diagana, selon vous, comment se porte le G5 Sahel 4 ans après sa création?
4 ans après sa création, je dirais d'abord, le G5 Sahel a réussi à faire des actions concrètes sur le terrain. Aujourd'hui, certes, notre consoeur vient de parler de ces escarmouches, de ces attaques qui continuent soit au Mali, soit au Burkina ou peut-être ailleurs. Mais aujourd'hui, aucune portion d'un terrain d'un pays du G5 Sahel n'est occupée par les terroristes. Donc c'est un fait indéniable. Et cela peut se mettre au crédit du G5 Sahel qu'il faut souligner souvent, qu'on oublie de dire, que nous venons de très loin. Qu'en 2012, toute une région du nord du Mali, ou pour ne pas dire tout le nord du Mali, était occupée, après l'intervention de l'opération Serval, suivie de Barkhane, rejointe après par la force conjointe, qui est un élément important parce que la création de la force conjointe, faut-il rappeler, a été décidée en novembre 2015 lors du sommet de N'Djamena et la résolution a été prise ici à Bamako en février lors de du sommet de 2017 des chefs d'État du G5 Sahel. Donc l'action se poursuit aujourd'hui au 15 cm d'un pays du G5 Sahel n'est occupé par les terroristes, pour ne pas dire les djihadistes, parce que ce terme-là, moi, je n'aime pas. Le djihadisme, c'est un autre concept. Et ceux qui s'attaquent à nos forces armées, ceux qui s'attaquent à nos populations civiles, ceux qui ne sont pas des djihadistes, c'est des terroristes, il faut le dire clairement. 4 ans après, M. Sidi Bé, le G5 Sahel a trouvé son sien et est en train de faire son chemin.
Mais d'après votre propre constat, quels sont les défis majeurs liés à la bonne marche de l'organisation en ce moment?
Comme vous l'avez dit, le G5 Sahel a 4 ans. 4 ans quand même, on ne peut pas faire un bilan. Et d'abord, il y a eu le temps de se positionner sur des sujets internationaux. Et ça a été un atout, ça a été un acte que nous avons réussi à placer. Le G5 Sahel, en 4 ans, a réussi à créer une force conjointe qui, aujourd'hui, se déploie sur le terrain, qui a 3 fuseaux principaux à l'ouest entre le Mali et la Mauritanie, au centre entre le Burkina, le Mali et le Niger, et à l'est entre le Niger et le Tchad. Donc c'est déjà des actions concrètes qui sont là, qui sont attachées pour, en tout cas, sécuriser nos populations, pour sécuriser nos territoires, pour rendre la culture dans cette bande qui, jadis, était un havre de paix, un monde d'interactualité, d'inter-échange, un brassage culturel qui fut le Sahel, un foyer rayonnant qui, malheureusement, aujourd'hui, par ses actes criminels, est en train de perdre tout cet élan, tout cet envergure. Maintenant, cette action du G5 Sahel est là. Vous dites, on va peut-être en parler dans le débat. Le G5 Sahel, ce n'est pas seulement les armes, on va en parler. Mais 4 ans après, je crois que le bilan est satisfaisant. Il est satisfaisant d'abord, comme vous l'avez dit dans votre papier introductif, il y a cette action de coordination, de mutualisation des efforts, c'est déjà important.
D'accord.
Le fait que ces pays se mettent ensemble, créent une force conjointe et qui ont créé aussi d'autres actions qu'on va en parler. Oui. Hier, le lundi 15 octobre, à Nouakchott, les officiers supérieurs des pays membres du G5 Sahel ont commencé des cours ensemble pour se familiariser, pour avoir le même mode opérationnel. Je crois que c'est aussi une action importante. Donc, tout cela est à mettre à l'actif du G5 Sahel en moins de 4 ans.
Très bien. Alors, Madame Alimi, pour ce qui concerne votre pays, le Tchad, quels sont les défis spécifiques à ajouter par rapport à ce que M. Diagana vient d'annoncer tantôt?
Bon, que ce soit le Tchad, le Mali, la Mauritanie, comme il vient de le dire, c'est le souci de se mettre ensemble et essayer de voir comment nous pouvons brouter ces mal en dehors de nos frontières pour qu'il y ait paix définitive. C'est vrai, il peut y avoir des mécontents, mais la force mixte, elle est là. À côté de ces forces, il y a aussi des avancées parce qu'au niveau interne de chaque pays, il y a des structures qui ont été créées, qui ont été mises en place. Et eux aussi, au niveau interne, chaque État essaie de faire des progrès, essaie de voir comment faire pour qu'il y ait une synergie d'action, pas seulement du côté des FDS, mais d'autres domaines aussi qu'on va en parler, comme vous l'avez dit, pour que les choses aillent de mieux. Donc c'est à saluer.
Okay.
4 ans dans la vie, même si c'est dans la vie d'un enfant, c'est rien, mais il y a quand même des avancées. Et si, par exemple, aujourd'hui, dans le lac, avant, ce n'était pas facile, mais maintenant, dans certains endroits, les gens ont repris confiance en eux. Il y a des gens qui ont décidé de collaborer aussi avec l'État, d'aider à enquêter. C'est déjà des avancées qu'on peut vraiment inscrire à l'actif du G5 Sahel.
Très bien. Aloussène Touré, quelque chose à ajouter par rapport à ces défis?
À ces défis, moi, je dis d'abord Le principal défi pour cette organisation, pour même les États, c'est d'abord le défi des moyens. Il faut trouver les financements, il faut trouver les moyens de mettre en place la logistique pour pouvoir mettre sur le terrain ces armées. Le deuxième défi aussi, c'est surtout l'intégration de ces armées-là pour qu'elles elles fassent une seule force, qu'ils puissent travailler ensemble, parce que ce n'est pas évident. Des gens qui ont eu des formations différentes, qui ont une culture différente, les mettre ensemble, c'est déjà en soi un défi. Et peut-être le dernier défi, à mon avis, qui est très important aussi, c'est l'intégration, c'est la relation armée-population. Comment amener la population à aider ces armées-là? Parce que le problème du terrorisme, c'est vrai, il y a la force, mais il n'y a pas que la force. Il faut, d'une part, réussir à stabiliser les jeunes par des projets qui puissent les aider à travailler et à ne pas céder au premier venu qui va leur demander de venir prendre les armes. Ensuite, l'autre aspect, comme quand je parlais de la population, c'est pour amener la population à dénoncer les fauteurs de troubles, les éventuels terroristes qui sont cachés, parce que les terroristes, la force du terroriste, c'est qu'il se cache parmi la population. On ne sait pas qui est qui. Il y a des gens en qui tu penses avoir confiance, mais qui ne sont pas tels que tu les crois. Donc, l'apport de la population, ce serait, à mon avis, d'aider l'armée dans le domaine du renseignement. L'aider à identifier les éventuels ennemis pour qu'ils puissent mettre la logistique en place pour pouvoir les combattre.
Mais à votre connaissance, quelles sont les stratégies mises en place pour mieux impliquer les populations? Parce que vous avez tantôt signalé cette implication de la population dans cet espace.
Ah bon, en termes de stratégie, c'est peut-être mon confrère Diagana qui pourrait...
Oui, dans le cas spécifique de Mali, j'ai dit à votre
De Mali, voilà, il y a ce qu'on appelle les actions civilo-militaires. On a vu sur le terrain les militaires qui vont au-devant des populations, qui vont d'abord leur offrir des services comme la santé et d'autres genres de services. Et même, il y a des gens qui ont besoin d'appui alimentaire et autres. Et en conséquence, qui sensibilisent les populations afin qu'elles puissent servir de relais, non seulement pour sensibiliser les autres à ne pas céder aux sirènes des terroristes, mais ensuite remonter l'information. Et je crois qu'il y a même aujourd'hui, je ne sais pas si c'est effectif, mais le projet était de mettre en place des numéros verts qui ne coûtent pas aux gens qui appellent pour qu'ils puissent donner des informations en temps réel à l'armée pour qu'elle puisse agir vite, pouvoir déstabiliser ces gens-là qui, on sait, c'est des gens qui ne sont jamais fixes, qui sont toujours en mouvement. Et donc, pour que l'on puisse rapidement les cerner et les supprimer, puisque c'est cela aussi... Et l'objectif recherché.
Ok. Alors, Abdoul Salam Diagana, au-delà de l'aspect sécuritaire, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement quand même du G5 Sahel dans son espace?
Sidi Bé, vous savez, généralement, quand on évoque le G5 Sahel, les gens pensent aux armes. Oui. On pense aux militaires. On pense aux attaques, à l'extrémisme violent, à la radicalisation. Mais le G5 Sahel, quand vous regardez, quand on dit le G5 Sahel, c'est le binôme sécurité et développement. On s'est rendu compte que peut-être dans plusieurs zones transfrontalières de pays, de nos pays, que ce soit surtout des zones reculées, sont devenues à un moment donné des zones de non-droit. Que n'importe qui vient avec un petit billet, ou avec une moto Jakarta, il peut détourner les jeunes, il peut détourner les populations par des actions de terrorisme. Et le G5 Sahel a compris que ce n'est pas par les armes seulement qu'on peut mettre fin à cette situation. Et c'est pour ça qu'il a un volet de développement important. Ce volet, parce que le G5 Sahel, il faut le dire, c'est à peu près c'est 4 piliers. C'est la sécurité et la défense, c'est les questions d'infrastructure, ce sont les questions de résilience et de développement humain, ce sont aussi des questions de gouvernance. Ce sont ces actions qui constituent le sous-bassement du G5 Sahel. Vous vous rendez compte aujourd'hui que dans certaines zones de nos pays, les jeunes ne peuvent pas suivre la télévision, ne peuvent pas suivre le match de football. Quand le Mali joue contre le Burundi, ils ne peuvent pas le suivre. Que les gens n'ont pas les éléments basiques de la santé, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'école primaire. Et c'est un défi qui est là. Et c'est des pistes qui sont là, c'est des créneaux qui sont ouverts à ceux qui viennent pour occuper ces zones qui sont abandonnées, qui sont délaissées. Et quand quelqu'un vient, il t'apporte à manger, il t'apporte un téléviseur, il t'apporte une moto Jakarta, et il te dit, quand tu meurs, tu vas aller au paradis, et tu vas le suivre, parce que tu n'as rien vu qui peut te détourner de cette voie. Donc, comprenant tout cela, le G5 Sahel ne s'est pas cantonné sur le volet sécuritaire, mais le volet développement fait partie de ces piliers essentiels. C'est pour ça que le 6 décembre 2018 à Nouakchott, il y aura une grande rencontre des coordinateurs, des bailleurs de fonds, pour mettre en route ce qu'on appelle le PIP, le programme d'investissement prioritaire des pays du G5 Sahel, pour aller à l'essentiel. Pour pour l'hydraulique villageoise et pastorale, pour les questions de santé, les questions d'énergie, il faut que nous allons vers nos populations. Il faut que nos populations sachent qu'on est là pour elles, et que nous travaillons pour elles, et que nous menons des actions concrètes pour elles sur leur terrain. Et c'est cela aussi le G5 Sahel. Il ne faut pas qu'on se cantonne souvent sur la force conjointe, sur les attaques criminelles. Le G5 Sahel, c'est aussi un volet de développement très, très important.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Retour donc sur ce plateau avec nos invités, Madame Narbaye Alimé, journaliste à Radio Liberté N'Djamena, Abdoul Salam Diagana, chargé des communications et des relations publiques au G5 Sahel, Alou Seyni Touré, chef du bureau de l'information et de la presse au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, pour parler communication et enjeux sécuritaires. Où en sommes-nous dans l'espace G5 Sahel? Alors, Madame Alimé, une réaction?
Oui, au fait, par rapport à l'aspect développement, le G5 Sahel, ce n'est pas seulement l'aspect sécurité, mais il y a aussi le volet développement. Parce que ces personnes qui troublent la paix, la quiétude dans nos pays, ce sont des gens bien informés, bien renseignés, et ils savent là où l'État est absent, c'est là où ils vont pour opérer. Et donc, il va falloir que l'État essaye de reprendre terrain, de ne pas seulement se cantonner dans les capitales, parce qu'un pays, c'est tout. Ce n'est pas seulement au niveau des capitales, mais essayer de voir aussi l'arrière-pays, le monde rural, qu'est-ce qui manque là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des endroits où il n'y a même pas d'école, il n'y a même pas de centre de santé, pour ne pas parler de centre de jeu, ça c'est encore loin, mais même pas l'école. Quelqu'un qui n'est pas instruit, il est un danger vraiment public pour son pays. Même pas des notions élémentaires où, bon, ça c'est mon pays, ça c'est l'emblème de mon pays et que je lui dois respect. Mais quand on n'a pas ces connaissances, on constitue vraiment un danger. C'est pourquoi le G5, c'est aussi l'aspect développement. C'est vrai, ça peine à venir. Et les gens se posent la question de savoir, mais quand est-ce le développement? tout le temps force, sécurité, sécurité, mais quand est-ce le développement? Mais le développement arrive, ne vous en faites pas, parce qu'il y a des projets de résilience, il y a des projets de développement qui sont élaborés, que ce soit au niveau de G5, que ce soit au niveau de ces 5 pays internes, il y a aussi des plans stratégiques qui ont été montés pour que le moment venu, au moment où il y aura des financements, on va lancer le développement. Parce que c'est un problème de gouvernance, c'est un problème de la mauvaise gestion, de l'injustice, de l'impunité, tout cela qui engendre ce que nous vivons aujourd'hui.
Très bien. Touré.
Voilà, mais je voudrais revenir un peu sur ce que nous avons appelé les défis. Alors, les défis pour des pays pauvres, qui sont les nôtres, le premier défi, c'est la pauvreté. Le second... Pour ajouter encore à tout ce que, toute la liste que nous avions déroulée tout à l'heure, l'autre aspect, c'est l'étendue de nos territoires et face aux moyens dont nous disposons. La plupart de nos pays ont plus d'un million de kilomètres carrés. Et le Mali, pour ses deux tiers, est un pays désertique. Comment arriver à mailler tout ce terrain-là? Et pouvoir le contrôler, contrôler le territoire, c'est quand même un défi important. Et face aux moyens de l'État, c'est vraiment difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, l'intégration des moyens de nos 5 États est un impératif. Et nos amis de la communauté internationale l'ont bien compris, qui ont manifesté leur intérêt pour la création de cette force conjointe. Et de notre organisation de façon générale, parce que comme l'ont dit les deux camarades, ce n'est pas seulement la force. Nous savons aussi qu'il y a des projets d'infrastructures, des projets de communication. On a parlé de chemin de fer, qui est un projet gigantesque. Imaginez le chemin de fer qui traverse tous ces pays-là jusqu'aux portes du désert. On a parlé aussi, je crois, d'une compagnie aérienne qui va regrouper les 5 États. C'est important parce que depuis, vous avez connu Rafrique, qui a existé, qui a quand même permis de desservir l'Afrique, même si pour des problèmes de mauvaise gestion, la compagnie a disparu. Il faut aujourd'hui, dans tous les domaines, que nos États mutualisent leurs efforts, pas seulement au niveau de la force, mais même dans le cadre du développement des infrastructures, dans le cadre humain tout simplement. Aujourd'hui, la circulation des personnes, des biens, doit être une chose qu'on ne devrait plus demander, surtout dans ces États qui se sont mis ensemble. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font et on ne peut que saluer l'initiative et encourager toutes les actions qui sont entamées.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que la base a été faussée? Parce que 5 pays sahéliens qui se mettent ensemble pour coordonner en fait leur sécurité et même les politiques de développement, au départ pour un besoin de 400 millions, l'Union européenne doit présenter 50 millions et l'ensemble de ces 5 pays donc maintenant doivent présenter le 1/5. Monsieur Diagana.
Oui, je ne sais pas si la question doit être posée de cette façon. Bon, mais moi, je crois que il faut d'abord saluer, comme je l'ai dit, cette initiative de nos États qui ont décidé de se mettre en commun pour créer une organisation. Une organisation de 5 pays qui sont identiques sur plusieurs plans. C'est le plan physique, c'est le plan économique, c'est le plan socio-culturel. Donc, qui ont réussi d'abord à mutualiser les efforts. C'est ces efforts dont constituent exactement ces moyens. Chacun ne peut donner que ce qu'il a. Le peu que tu donnes peut contribuer demain à engendrer plus pour mettre en sécurité nos populations. Si aujourd'hui, pour le départ initial de la force conjointe du G5 Sahel, on a tablé sur un budget de 400 et quelques millions d'euros, que l'Arabie et que l'Union européenne, dans un premier temps, a donné 50 millions, et est venue pour donner 50 millions, que l'Arabie saoudite a donné 100 millions de dollars, que les États-Unis ont donné 60 millions au titre de bilatéral, aux aides bilatérales, mais ils ont donné quand même. Hein. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas donné. Ils ont donné 60 millions pour des aides bilatérales. L'ensemble de ces sommes constitue déjà un pactole important pour la force conjointe. C'est de quoi il faut savoir démarrer. L'important aujourd'hui, c'est de démarrer, c'est de faire face à la situation que nous vivons. Et c'est déjà, moi, ce qui est important pour moi, c'est que nos États ont réussi ensemble à créer cette force déjà. C'est ça. Le reste, ça va venir. L'argent, là, ça va venir un jour. Les moyens vont venir. Hein? Les hommes sont là et la volonté est là. Le reste va venir.
Alors, M. Touré.
Ouais. Moi, je rejoins mon confrère Diagana pour dire que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'il ne faut pas les commencer. Et nous avons aussi la chance d'avoir des amis de par le monde qui ont compris l'enjeu de cette lutte-là. Et par ailleurs, vous savez que le président de la République, à un moment, a dit que le Sahel, le Mali est une digue. Le Sahel, de façon générale, est une digue. Parce que si nous ne parvenons pas à maîtriser cette vague terroriste-là, et même la vague d'émigrés qui va ailleurs, si nous ne parvenons pas, nous, à les contenir, eh bien, ce sont les autres qui vont les recevoir. Et les autres ont plutôt intérêt à nous aider à faire face à ce défi-là que constitue le terrorisme. Et je parlais également de l'immigration massive des jeunes vers l'Europe. C'est également un fait et c'est également un défi auquel nos États sont confrontés. Pas nous, à notre niveau, parce que mais nos enfants qui vont ailleurs, c'est pour essayer de trouver quelque chose pour appuyer la famille, le pays. Mais les autres les voient plutôt comme des envahisseurs. Et si les autres veulent qu'ils restent ici, il faut nous aider, nous appuyer à nous développer. Et comme ça, on n'aura pas besoin d'aller ailleurs. C'est la même chose pour le terrorisme. Si nous n'arrivons pas à contenir ces terroristes-là, ces pseudo-djihadistes, parce qu'il ne faut même pas les appeler comme ça, c'est leur donner beaucoup d'importance, de dire que c'est des djihadistes. Alors, ces gens-là, qui menacent l'Occident de façon générale, il faut que nos amis nous aident à les contenir. En quoi faisant ? D'abord, il y a la lutte, mais en tarissant leur base, c'est-à-dire les jeunes qui sont en train de recruter, si nous avons des projets pour stabiliser ces jeunes-là, leur donner de l'emploi, ils vont jamais aller se donner à la mort.
Et quelle doit être la contribution de nos pays dans ce cas?
La contribution de nos pays, c'est d'abord de mettre en place, de concevoir d'abord ces projets-là, de dire voilà notre besoin. Parce que pour que les autres vous aident, il faut d'abord que vous-même vous sachiez de quoi vous avez besoin. Donc, concevoir des projets intégrateurs entre, au niveau de tous les pays et appeler les uns et les autres à nous aider parce que nous aussi, nous allons mettre quelque chose dans la cagnotte. Il n'y a pas de projet du G5 où il n'y a pas une participation de tous les pays. Donc, c'est déjà quelque chose. Voilà.
Alors, allez-y rapidement.
Ces pays qui soutiennent le G5 essayent de prévoir aussi leur sécurité. Hein, parce qu'ils savent que si les jeunes sont oisifs ici, ils vont repartir là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'idéal, c'est de soutenir ou bien d'appuyer ces pays financièrement pour qu'ils puissent créer des conditions pour permettre aux jeunes de ne pas partir, mais rester sur place. Parce que s'ils vont là-bas, ils deviendront très dangereux pour ces pays aussi. Ouais, donc, ils essayent de prévoir en quelque sorte leur sécurité.
Oui, allez-y.
Je crois que la lutte contre le terrorisme n'est pas liée à un groupe de pays, n'est pas liée à un État. C'est un phénomène général. Okay. Comme a dit Touré tout à l'heure, il a dit que le président malien a dit que le Mali est en barrage, une digue, c'est pas moi. Effectivement, il n'est pas aussi une digue seulement pour ces pays, mais pour l'ensemble des pays.
Okay.
Hein? Donc, ce combat, il est pour l'ensemble de la communauté internationale. Voilà.
Mais pour, en tout cas, dans cette action, il faut quand même impliquer les populations. Quelles sont les limites des actions jusque-là menées pour l'implication des populations?
Non, mais nous avons dit que tout à l'heure, quand nous avons parlé des questions de développement, Les populations ont besoin de voir quelque chose de concret pour être impliquées, pour comprendre pourquoi le G5 a été créé, pourquoi le G5 est là. Et pour cela, il leur fait des actions concrètes sur le terrain. Il faut des projets d'hydraulique, il faut des projets d'agriculture vivrière, familiale. Ça, c'est des petits projets.
Et ça va commencer dans combien de temps?
Mais comme je l'ai dit, que nous allons... Vous savez, le problème des moyens est important. Et beaucoup de gens ont assimilé, comme je l'ai dit tantôt, le G5 à la force qu'on a surdimensionné la communication sur les questions sécuritaires, en oubliant un peu les questions de développement. Et cette question a été comprise par nos chefs d'État qui ont demandé à une rencontre qui aura lieu à Nouakchott le 6 décembre 2018, où tous les donateurs seront là, où on va les présenter un catalogue de projets sociaux, économiques, culturels pour ces populations-là. Pour que ces populations ne disent pas ce que nous disons, c'est du vent. Et que les gens travaillent pour nous et il y aura des projets qui vont être là. J'espère que nous serons là bientôt dans vos studios pour annoncer ces projets qui vont démarrer dans les zones sensibles, dans ce qu'on appelle les zones transfrontalières, qui sont souvent en déphasage avec ce qui se passe, comme l'a dit ma collègue tchadienne, dans nos capitales. Le G5 n'est pas Ndjamena, n'est pas Nouakchott, n'est pas Bamako, n'est pas Niamey, n'est pas Ouagadougou. C'est en tout. C'est l'ensemble de nos pays.
Vivement ces jours-là.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Nous vous rappelons que vous suivez ce forum spécial de la presse consacré à la communication et aux enjeux sécuritaires où en sommes-nous dans l'espace G5 Sahel. Nos invités ici sont Madame Narbaye Alimé, elle est journaliste à Radio Liberté Ndjamena. Abdoul Salam Diagana est chargé de communication et des relations publiques du G5 Sahel. Alouseni Touré, chef du service de l'information et de la presse au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Alors, le temps juste de vous rappeler qu'un séminaire de formation, parce qu'il semblerait qu'il y a un problème de communication, donc un séminaire de formation sur la communication et les enjeux sécuritaires dans l'espace G5 Sahel vient de prendre fin. La session qui a duré 5 jours, a initié à l'endroit de 25 stagiaires quand même des actions à mener. Donc à propos, nous allons écouter un des formateurs, Ali Tungara.
D'aider les différents acteurs chargés de communication dans les différents départements ministériels, notamment la sécurité intérieure, la défense, afin de pouvoir véhiculer des messages adéquats, d'utiliser les canaux appropriés en termes de diffusion des messages en lien surtout avec l'aspect sécuritaire. L'intelligence communicationnelle est quelque chose d'extrêmement important à maîtriser. On observe que les acteurs qui sont censés véhiculer des messages en temps de conflit ne sont pas très souvent outillés par des outils appropriés du point de vue des techniques communicationnelles. C'est donc il est important que ces différents acteurs soient outillés de ces techniques de communication, que ces différents acteurs servent des relais dans leur quotidien entre nos États du G5 Sahel et les populations de ces États aussi.
Madame Alimé, alors à votre avis, où se situe le blocage?
Bon, comme le reportage que nous venons de suivre, la communication, elle est très importante. Et les participants, le choix même des participants à ce séminaire dit tout et montre le problème du doigt. C'est dire qu'entre les FDS, Forces de Défense et Sécurité, les magistrats et les journalistes, quelquefois, les choses ne marchent pas bien. Pour les FDS, on nous dit clairement que c'est une question de sécurité, c'est classé top secret. Alors que les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs, que sais-je encore, veulent l'information, veulent savoir est-ce que ces gens-là, ils sont à quel niveau? Est-ce qu'ils opèrent où? Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils opèrent? Mais quand on va vers eux, on nous dit non, c'est top secret, il faut attendre, ça pose déjà un problème. Alors que le souci d'un journaliste, c'est d'informer, c'est de communiquer, avoir de l'information en temps réel pour ses auditeurs. Quand on se tourne de l'autre côté vers les magistrats, quelquefois aussi on nous dit non, tant que l'affaire est pendante, il ne faut pas en parler. Il y a des limites qui freinent notre action au quotidien. Alors ce séminaire a été l'occasion pour nous de nous frotter avec ces différents corps. Et qu'après ce séminaire, si je vais vers un FDS, il n'y aura pas de blocus. Bon, c'est vrai, il y a des réponses que je ne vais pas avoir. Par exemple, leur stratégie de guerre. Là, ils ne vont pas me le dire. Parce que s'ils parlent de leur stratégie de guerre, moi, en relayant, ça permettra à l'ennemi de se positionner. Là, ils ne vont pas me le dire. Et là, moi aussi, je ne vais pas insister. Mais de simples informations, comment faire, quels sont les numéros verts, comment aider la population à rester confiante, à avoir confiance en ces FDS et autres. Ça, c'est des informations qu'on peut mettre à notre disposition. Et nous, acteurs de médias, comment nous pouvons faire ce travail? Quelquefois, nous manquons aussi un petit peu. Sinon, comment définir ces différentes terminologies nous pose problème. Djihadistes, extrémistes, radicalisation. C'est un mélange de tout. Un extrémiste, on ne va pas hésiter, on peut le qualifier d'un radicalisé, d'un terroriste, alors qu'il y a quand même une nuance parmi ces différents concepts. Alors, qui désignait terroriste, qui l'appelait extrémiste? Ce séminaire nous a permis de voir tout cela au clair et comment communiquer en temps réel et comment les chargés de communication aussi feront de leur mieux, voilà, pour nous informer, pour que nous aussi, à notre niveau, on puisse relayer l'information.
Alors, Alousseine Touré, donc, est-ce que vous avez réfléchi un peu quelles sont les pistes qu'on a pu dégager pour améliorer ces stratégies-là?
Alors, nous avons, pendant 5 jours, ensemble, comme elle l'a dit, forces de défense, magistrats, journalistes, nous avons regardez ensemble dans la même direction et nous sommes parvenus à la nécessité, en tout cas, de communiquer. Et pour communiquer, quoi communiquer? Et nous, généralement, c'est toujours les journalistes qui sont montrés. On sait qu'il y a des journalistes qui ont même été arrêtés dans leur pays pour avoir donné des informations qu'on a trouvées trop sensibles. Bon, pourquoi? Parce que les journalistes, ils cherchent toujours le sensationnel. Mais quand on doit se soucier de la sécurité de son pays, de la sécurité de sa population, il y a des concepts, il y a des démarches à adopter. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, même quand on le sait. Et du côté également des autres acteurs, la justice et les forces armées, et c'est des gens aussi qui n'ont pas les rudiments de la communication et donc qui ont peur de communiquer. Donc le séminaire nous a amenés tous à comprendre qu'il y a toujours la nécessité de communiquer, mais surtout en temps de crise, parce que quand il y a des problèmes, il faut que les populations sachent qu'est-ce qui se passe, comment s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut éviter, quel acte on doit poser. Par exemple, au Nord aujourd'hui, quand on parle des mines, la problématique des mines, il y a toujours des enfants, des bergers, des femmes qui vont chercher du bois, qui tombent sur des mines. Et si ces gens sont sensibilisés un peu à ces mines-là, à éviter des zones, telle zone ou telle zone, ça c'est des choses faisables. On n'a pas besoin, ce n'est pas des secrets. Donc les forces de défense et les magistrats également, sur le show, quand il y a un attentat, etc., on leur demande de réagir, de dire à la presse exactement qu'est-ce qui s'est passé. Bien sûr, il faut un petit temps pour comprendre eux-mêmes, comprendre ce qui se passe, et mettre de l'ordre dans leur communication pour pouvoir faire face à la presse. Donc, je crois que dans l'ensemble, on s'est tous compris. Ceux qui communiquent doivent savoir quoi donner. Ceux qui informent également doivent savoir à qui s'adresser et quelle retenue les journalistes doivent avoir par rapport à l'information sensible.
Merci beaucoup. Alors, Abdoul Salam Diagana, l'actualité ici au Mali aussi, hein, c'est la délocalisation du QG du G5 Sahel à Bamako. qui a été perçu vraiment par certains comme un aveu de faiblesse. Alors, quelles en sont les véritables raisons?
Les véritables raisons, c'est une question de stratégie militaire. Et il ne m'appartient pas de dire que la force conjointe a fait un aveu de faiblesse. Non. Vous avez dit le QG. Un QG peut être mis un peu partout. Hein. Je ne suis pas un militaire, mais le plus important pour la force conjointe, c'est le positionnement sur le terrain. Comme je l'ai dit, il y a des physios qui sont là. Il y a des commandements qui sont sur le terrain. Mais un QG, c'est un ordre qu'on donne. Peut-être qu'ils ont pour des raisons, des questions de communication, peut-être que les moyens de communication sont plus performants au niveau de Bamako. C'est peut-être communication, je veux parler dans tout le sens. Mais sur le plan opérationnel, le QG, on peut le placer à Studio Tamani, hein, et ça ne pose pas de problème. L'essentiel, c'est d'avoir des relais, savoir des moyens de toucher les commandants qui sont sur le terrain. Mais ce n'est pas un avis de faiblesse. Il faut pas que,
après
c'est notre problème entre nous, M. Sidibé,
oui,
c'est que nous épiloguons beaucoup sur nos... C'est ça qui est le problème. Nous sommes dans une situation vraiment difficile. Nos forces ont besoin de soutien moral, tout. Ils ont besoin d'encouragement. Mais dès qu'on fait un acte, on dit « Oh, mais ils sont faibles, ils ont fini. » Non, mais ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse. Ces hommes qui sont sur le terrain, comme disait un colonel là, qui portent les casques, qui portent les rangers, qui font une semaine sans se doucher, ils ont besoin de notre soutien moral. C'est ça qu'ils ont besoin aujourd'hui. Ce n'est pas une question de faiblesse. Ils sont en train de faire des actions. On doit les soutenir, mais dire que c'est une question de faiblesse. Moi, quelqu'un m'a dit que en QG, on peut le mettre partout. L'essentiel que ça se passe très bien.
D'accord. Le temps presse, mais au regard de ces 4 années d'existence, est-ce que le G5 Sahel peut être considéré comme une solution durable quand on sait qu'il faut obligatoirement attendre la contribution des partenaires extérieurs?
Nous n'attendons pas la contribution des partenaires. Ce sont des partenaires. Vous avez dit le mot partenaire. Donc nous amenons notre part, ils amènent leur part pour leur sécurité. Comme l'a dit Touré, il faut que nous sécurisons. Ce n'est pas seulement le Sahel que nous sécurisons, hein. Si le Sahel saute, l'Europe est à côté. Si le Sahel saute, l'Afrique centrale est à côté. Donc, c'est un défi commun à tous les pays. Ce n'est pas pour moi une question de Sahel, ce n'est pas une question de la Mauritanie ou du Mali. C'est une question de survie pour l'humanité, si vous me permettez ce terme-là.
Très bien. Alors, merci à notre invitée, Madame Narbaye Alimé. Elle est journaliste à Radio Liberté N'Djamena. Elle est surtout membre du réseau des journalistes du G5 Sahel. Merci à Abdoul Salam Diagana, chargé des communications et des relations publiques du G5 Sahel. Nous disons aussi merci à Al-Husseini Touré. Il est chef du bureau de l'information et de la presse au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Le thème de ce forum spécial, c'était la communication et les enjeux sécuritaires. Où en sommes-nous dans l'espace du G5 Sahel? Nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde par Salim Diouara. La régie vidéo était assurée par Mamadou Ouattara. Je suis Aliou Sidibé à la présentation et Mohamedou Touré a assuré la coordination. À la prochaine.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Mandi.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.